Alors, quelles étaient les coutumes au moment de la naissance d'un enfant? Comme dans la plupart des tribus indiennes, les vieilles femmes n'aimaient pas beaucoup parler des rites de la naissance. Eh bien, il se trouvait que beaucoup de jeunes femmes indiennes étaient absolument ignorantes et évidemment très mal préparées à la naissance de leur premier enfant. Et par exemple, nous avons le témoignage de Jolie Protégée, une femme Crow, qui raconte son histoire dans un livre qui s'appelle « La mère rouge » et qui rapporte qu'arrivée à la fin de sa grossesse, alors qu'elle s'amusait avec des amis pendant sa première grossesse, donc, elle a tout à coup senti une petite douleur. Lorsqu'elle s'est assise, elle a beaucoup rigolé à propos de cette douleur. Et une de ses amies a deviné que cette petite douleur, ce que signifiait cette petite douleur, et a couru avertir la mère de Jolie Protégée, qui immédiatement a consulté la femme médecine, la femme médecin, qu'on appelait la main gauche. Vous remarquez les images portées dans les noms indiens. Alors, la mère et la femme médecine, main gauche, devait emmener Jolie Protégée avec elle pour aller, et ça c'est une tradition importante dans la tribu des Crow, dans une maison en bois construite spécialement pour que les femmes qui devaient accoucher. Parce que à ce moment-là, en dehors de cette maison, Jolie Protégée avait remarqué qu'il y avait devant la maison un des chevaux favoris de son père qui était attaché avec beaucoup de robes qui, pour la tribu, avaient beaucoup de valeur sur son cheval. Et en quelque sorte, elle a su que c'était ce que son père payait en avance à la sage-femme, puisque telle est en fait la fonction de main gauche dans cette histoire, paiement que donnait le père de Jolie Protégée à main gauche pour son assise, pour son aide. Alors, la jeune protégée, Jolie Protégée, décrit dans son histoire un petit peu l'allure qu'avait left hand, main gauche. Elle disait qu'elle s'était peint sur la figure des dessins avec de la boue, que ses cheveux étaient tirés dans une sorte de chignon sur son front et que dans sa main, elle portait de l'herbe que normalement le bison n'accepte pas de manger, mais qui visiblement est très utile pour la naissance. Alors à l'intérieur de ce tipi, donc, qui se trouve en dehors de du village, enfin du lieu des tribus, eh bien la sage-femme fait un feu et à ce moment-là, elle va installer sur le sol des peaux de bison qu'elle va plier en plusieurs morceaux de façon à avoir les poils qui sont à l'extérieur pour que ce soit le plus tendre possible pour accueillir la femme qui va accoucher. Et c'était la coutume qu'on utilise ces peaux de bison et qu'une était roulée et mise contre le dos de la femme. Donc on avait une installation très particulière pour que les femmes puissent accoucher. Elle s'agenouillait sur la peau, adossée à ce grand rouleau de peau de bison, et de sorte qu'elle pouvait se retenir aux épaules de la sage-femme et ou bien s'appuyer sur la pile des peaux de bison. Une position particulière que l'on n'emploie pas dans nos maternités. Alors, d'abord, la sage-femme prend une grande quantité de charbon ou de bois pour faire le feu. Et elle a une coutume très particulière. Elle va commencer à étendre les braises sur le sol, depuis la porte du tipi jusqu'au lit, comme ça une sorte de tapis de braises. Et ensuite, elle va expliquer à la femme qui va accoucher qu'elle devrait normalement marcher sur les braises pour aller jusqu'au lit. Bien sûr que c'est une image et que la sage-femme va, pendant cette cérémonie, se couvrir elle-même d'une peau de bison et jouer à être la vache bison, si je puis dire, je ne sais pas comment on dit ça, enfin la femelle bison, et qui va donner toutes les instructions tout au long de la cérémonie qui précède juste l'accouchement à la femme. pour qu'elle puisse traverser ce tapis de braise et donc s'asseoir, se coucher, se mettre à genoux sur les peaux de bête et s'occuper d'elle. Par exemple, elle va lui brosser les cheveux et même la caresser avec la queue d'un bison pour la purifier avant les cérémonies de l'accouchement. Alors, notre jeune protégé, dans son histoire qui s'appelle Mère Rouge, je vous le rappelle, nous conclut son histoire en disant qu'elle avait marché le long de la couche de braise et lorsqu'elle a vu qu'elle aurait dû en fait avoir atteint le lit de peau dans un certain temps, puis qu'elle avait été trop lentement. Alors, elle a sauté la dernière partie et elle s'est retrouvée à genoux sur les peaux. Et que très vite, elle n'a eu plus qu'à s'agenouiller. Et son premier enfant, qu'elle a appelé Feu de Pin, était déjà né. Une anthropologiste qui s'est beaucoup préoccupée de la vie des femmes indiennes, qui s'appelle Ruth Underhill, a raconté une histoire un petit peu qui ressemble à celle de Jolie Protégée, mais qui évoque la vie d'une femme papago qui se trouve dans la région du sud de l'Arizona, toujours un petit peu dans la région que je vous décrivais tout à l'heure. Et elle raconte l'histoire de la naissance du premier enfant de Chuna, une femme papago, et qui disait qu'en l'occurrence, elle était à cette époque tout juste une adolescente, qu'elle ne savait absolument rien de ce qui l'attendait, et ni même comment cela allait se passer à propos de la naissance de son enfant. Mais lorsqu'elle a commencé à sentir une douleur à un moment donné, un jour, alors qu'elle était en train de traverser une prairie, elle a tout juste eu le temps de se mettre dans le tipi destiné à la naissance avant l'arrivée de son enfant. Et qu'il y a une tradition particulière aussi chez les femmes papago qui fait que pour avoir leurs enfants, elles sont mises dans une hutte séparée du restant du village. Et que donc, Chuna, quand elle a senti ses premières douleurs, elle savait qu'il était temps pour elle de se dépêcher d'aller dans la petite maison, comme on l'appelle dans sa tribu, parce qu'elle ne voulait surtout pas qu'une chose aussi inquiétante et préoccupante comme elle s'imaginait, elle, l'accouchement, lui arrive en dehors de cette maison et qu'elle soit prise, qu'elle soit attrapée comme accouchant en dehors de la maison réservée normalement à la naissance. Alors, elle a vite dit à la tante de son mari qu'est-ce qui lui arrivait, qu'elle allait courir le plus vite possible vers la petite maison destinée à l'accouchement qui se trouvait en dehors du village. Et elle a essayé de courir à travers la rivière asséchée pour aller jusqu'à la petite maison. Et elle dit qu'elle avait à peine atteint le rebord de la rivière qu'est-ce qui s'est passé? Elle a, en courant, parce qu'elle voulait faire les choses comme il faut, eh bien, tout simplement, elle a accouché de son bébé, si l'on peut dire, elle l'a laissé tomber, en quelque sorte, dans la rivière, plein milieu de la rivière. Et lorsque la tante est arrivée, en lui disant, en lui demandant, mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Et tu n'avais pas l'air du tout de souffrir, tu rigolais même quand je t'ai vu partir. Et Tuna a répondu, mais de toute façon, c'était pas ma bouche auquel j'avais mal, c'était en mon fort intérieur. Je vous propose encore une danse Hopi qui vient de Second Mesa dans le Nouveau-Mexique et le nord de l'Arizona. Alors, pas toutes les femmes indiennes pouvaient accoucher aussi facilement que l'histoire de Jolie Protégée de Tuna, dans la mesure où elles avaient tout juste le temps de courir jusqu'à leur au lieu destiné à l'accouchement et que leur enfant était né. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on attendait de la femme qu'elle supporte les douleurs de l'accouchement sans du tout pleurer ni crier. Et les femmes Hurons, par exemple, du nord-est des États-Unis, au bord des grands lacs américains, lorsqu'elles étaient en train d'accoucher, faisaient tout pour donner un bon exemple. Et une femme Huron prouvait son courage lorsque, pendant l'accouchement, elle se conduisait de façon courageuse. Et c'était un petit peu de la même façon dont on testait un petit peu le courage des hommes lors des batailles. Et la tribu des gros ventres dans le Montana, cette fois-ci nord-ouest des États-Unis, croyaient eux qu'une femme qui pleurait ou qui criait lorsque elle accouchait son enfant, que ça le faisait revenir dans son ventre. Et qu'une femme qui se tournait et qui se gesticulait dans la douleur pouvait en fait étrangler son enfant. Alors, quelles étaient les cérémonies que les femmes pratiquaient lors de la naissance d'un enfant? Puisque je vous dis que chaque naissance était accompagnée de grands rituels dans les sociétés indiennes nord-américaines. Par exemple, la vie d'un enfant Hopi commençait avec des cérémonies religieuses très, très élaborées qui se passaient, qui avaient beaucoup d'importance dans la vie du village. Chaque nouvel enfant était tout de suite mis au milieu de traditions très très riches et sacrées qui guidaient chaque jour et chaque mois de la vie des Hopis dans leur village et qui vraiment en quelque sorte organisaient la vie de tous les jours de chaque Indien Hopi. Et dans les Pueblo Hopi, c'est comme ça qu'on appelle les villages Hopi, une jeune mère était souvent laissée seule au moment de la naissance. Mais aussitôt que son enfant était né, on l'emballait tout de suite dans des tissus très chauds. Et la grand-mère du côté maternel du nouveau-né venait dans la chambre et coupait, elle était responsable de couper le cordon ombilical et de s'occuper du confort de sa fille et de son petit enfant, de son petit-fils ou de sa petite-fille. Elle était responsable de laver l'enfant, qu'elle frottait avec des cendres qui avaient été prises dans un feu fait avec du maïs. Maïs, nourriture très importante pour les Indiens Pueblo du sud de l'Arizona. Et de façon à ce que la peau du bébé soit toujours bien douce et surtout, et c'est important chez la plupart des Indiens du Nord, libre de tout poil. Et ensuite, elle prenait l'enfant qui venait de naître et le déposait dans un berceau qui était spécialement constitué, qui est très rigolo. C'est une sorte de tuyau comme ça, qui est tressé avec des joncs. Et on déposait le bébé, c'était son berceau, dans ce sorte de tuyau. Et ce berceau avait la particularité de pouvoir être porté sur le dos des mères ensuite. Donc il servait à la fois de berceau et de porte-bébé lorsque les femmes emmenaient leurs enfants dans leur travail ou dans leurs diverses activités. La grand-mère, qui avait jusque-là pris soin de tout le monde, est aussi responsable de prendre le placenta et d'aller le cacher, le creuser, le mettre dans un trou creusé à cet effet dans un des angles du village. Et très rapidement, la grand-mère paternelle du petit bébé arrivait aussi, elle aussi, et commençait à remplir ses devoirs en tant que maîtresse de cérémonie. Donc vous remarquez, c'est la grand-mère du côté paternel qui est responsable des cérémonies et des rituels qui devraient... qui serait réalisé pendant les 20 jours qui suivaient la période de l'accouchement et dont le summum des fêtes était réservé, était dédié au soleil. Et donc le premier devoir de la grand-mère paternelle du nouveau bébé était de mettre sur la porte de la maison de sa fille, de sa belle-fille et donc du nouveau-né, une très lourde couverture sur la porte afin qu'il n'y ait aucune lumière qui entre dans la chambre où se trouvaient la mère et le bébé. Et bien que... qu'on ne pensait pas que la lumière soit dangereuse pour les enfants nouveau-nés, mais c'était une façon de faire que la vie de l'enfant commence sur terre dans une chambre presque sombre, comme une sorte de tombe dans laquelle il allait émerger petit à petit. Et 18 jours après la naissance, lorsque la mère et l'enfant se sont reposés dans cette chambre assombrie, eh bien... chaque jour, petit à petit, allait faire que la paroi qui se trouve au-dessus du lit de l'enfant allait recevoir les divers marques de ces 18 jours, parce que ces 18 jours sont très importants. Et le 19e jour, la mère allait enfin se lever, reposer des difficultés et des douleurs de l'accouchement, et allait passer un jour entier à décortiquer le maïs et à en faire de la farine pour un repas sacré qui est prévu le 20e jour lors d'une cérémonie particulière. Et lors de ce 20e jour, eh bien, les amis et les parentes de la nouvelle mère arrivent à sa maison juste avant l'aube et vont mettre leur plus beau châle, leur plus belle robe, vont apporter des cadeaux qui soient sous forme de mets au maïs et... tous les hôtes vont arriver ensuite pour participer à la cérémonie qui va consister à dédier cette nouvelle vie qui commence au soleil et aux diverses divinités de la tribu. Alors d'abord, la mère va être purifiée selon un certain rite. Ses cheveux, son corps vont être lavés et surtout avec une eau dans laquelle aura trempé des racines de yucca, qui est un arbre très fréquent dans une plante fréquente dans cette région. Et ensuite, elle va prendre, et ça c'est une tradition très particulière chez les Indiens de cette région-là, elle va prendre un bain de vapeur pour la purifier. Les Indiens, aussi bien les hommes que les femmes, très souvent prennent des bains de vapeur pour se purifier lorsqu'ils croient avoir soit commis un acte qui est contre leurs règles, soit parce qu'ils viennent de vivre un événement qui nécessite une purification, comme par exemple la naissance, pour passer à un autre statut, une autre étape de la vie. Ensuite, après le bain de vapeur de la mère, eh bien, les deux grands-mères et les tantes vont chacune à tour de rôle donner un bain à l'enfant dans cette même décoction de yucca et ensuite lui donner un nom. Et pendant que tout ceci a lieu, eh bien, que fait le père? Parce que est-ce que le père est vraiment toujours éloigné de ces histoires? Eh bien, pendant tous ces jours, depuis la naissance de l'enfant jusqu'au 20e jour, le début de cette cérémonie importante, eh bien, le père, qui, lui, est resté à pratiquer plutôt les cérémonies à l'intérieur de la kiva, ce lieu sacré réservé aux hommes et qui se trouve en sous-sol dans le village, eh bien, il va sortir avec ses congénères de la kiva pour saluer le soleil. Et lorsque le soleil va apparaître, puisque tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure se passe avant le lever du soleil, à l'aube, alors lorsque Père Soleil, vous rappelez-vous, Mère Terre, la Mère Terre et le Père Soleil, commence à apparaître, eh bien, le Père va avertir les femmes que c'est le moment d'emporter l'enfant sur le rebord de la mesa. La mesa, cette montagne aplatie où est construit le village. Alors, les grands-mères vont apporter le bébé pour qu'il soit présenté à la lumière et qu'il soit caressé par les rayons du soleil. Et lorsque le soleil apparaît sur l'horizon, eh bien, les grands-mères vont en quelque sorte élever l'enfant dans leurs bras pour le dédier au soleil, le tournant plusieurs fois directement vers les rayons du soleil pour que les rayons du soleil frappent son visage. Et ensuite, on va l'arroser d'eau, on va faire des prières, on va réciter des chants. Et le restant du repas préparé avant le lever du soleil par les femmes, le repas fait de maïs, eh bien, va être offert au soleil en étant laissé sur le rebord de la mesa. Depuis ce moment-là, à la fin de cette cérémonie, l'enfant est maintenant un membre à plein de la famille et de la tribu. Il est autorisé à rentrer dans la maison de la famille et donc de dormir avec le reste de la famille et surtout d'avoir droit à un petit déjeuner. Chez les Unis, un autre peuple qui vit un peu plus au sud des mesas où les Indiens Hopi construisent leur pueblo sur les mesas, eh bien, chez les Unis, ils reconnaissent le sexe dans l'enfant dans une cérémonie spéciale qui est organisée très vite après la naissance. Lorsque cet enfant nouveau-né est une femme, on lui place une pièce, enfin comment dire, une sorte d'objet précieux que l'on place sur la vulve afin que ces parties sexuelles soient suffisamment larges par contre à l'enfant garçon, eh bien, on va arroser son pénis avec de l'eau pour que ses organes ne soient pas petits. Voilà la façon de célébrer chez les Indiens Unis la reconnaissance du sexe de la petite fille ou du petit garçon nouveau-né. Naturellement, cette cérémonie était aussi réalisée par les femmes qui étaient aux côtés de la nouvelle mère et qui reflétait en quelque sorte l'idéal féminin pour soit les proportions physiques du sexe de la petite fille ou bien du sexe du petit garçon. Et parce qu'il y avait une mortalité infantile extrêmement importante dans les tribus des premiers Indiens d'Amérique du Nord, eh bien, les cérémonies étaient souvent retardées jusqu'à ce que l'enfant ait atteint une année pour être sûr qu'il allait continuer à vivre. Dans une autre tribu, chez les Omawa, eh bien, un nouveau-né n'était pas considéré comme un membre de la tribu mais simplement comme un autre être humain dont l'arrivée dans l'univers devait être annoncée et donc qui devait avoir gagné en quelque sorte sa place et être accepté dans la force de la vie, dans la nature et à la fois la vie animée et non animée. C'est pourquoi dans la tribu des Omawa, le 8e jour après la naissance de l'enfant, on faisait une petite cérémonie et une prière était récitée pour que aux puissances des dieux, à l'air, à la terre, pour la sécurité de l'enfant, et afin qu'il puisse voyager sur la route difficile de la vie avec courage et avec sécurité et qu'il puisse passer les différents stades de l'enfance, de la jeunesse, de l'âge adulte et de la vieillesse. Et lorsque l'enfant avait grandi un petit peu, était capable de marcher, alors on effectuait un nouveau rituel pendant lequel l'enfant était enfin reconnu comme un réel être humain et un réel membre de la tribu. Et à cet enfant, on lui donnait un nouveau nom et une nouvelle paire de mocassins. Et ces mocassins, toujours, avaient un petit trou pour que si le grand esprit, comme on l'appelait, pouvait dire à l'enfant, eh bien écoute, je ne peux pas voyager maintenant, mes mocassins sont déchirés. C'était une façon d'échapper à la mort. Je vous rappelle la mortalité infantile, très importante parmi les tribus indiennes. Et juste pour finir, eh bien chez les Omaha, qui donc vivaient dans l'est du Nebraska, eh bien on croyait que certaines personnes avaient le talent de comprendre les différents sons émis par un enfant. Et quand un petit pleurait de façon trop persistante et qu'on n'arrivait pas à le réconforter, eh bien on appelait une de ces personnes et quelquefois la personne décidait que l'enfant pleurait parce qu'il n'aimait pas son nom, par exemple. Et donc, dans une telle situation, il fallait changer le nom de l'enfant. Dans notre prochaine étape de l'histoire des sœurs de la Terre, des filles de la Terre, eh bien, je vous propose d'aborder cette fois-ci l'éducation des petites filles dans les tribus, les premières tribus amérindiennes. Je vous rappelle que tout ce que je vous raconte, je le connais en ayant lu le livre magnifique écrit par Caroline Nithammer qui s'appelle « Filles de la Terre, les vies et légendes concernant les femmes amérindiennes du Nord ».
J'étais petite en socket blanc.